Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nouveau podcast. Alors, pendant que j'enregistre, j'ai ma petite lampe de luminothérapie là qui m'éclaire le visage parce qu'il est un petit peu tôt ce matin quand j'enregistre. La maison est calme, donc j'en profite, j'enregistre de bonne heure. Alors, on va voir pas mal de petites choses aujourd'hui, un peu d'actualité, un petit peu de style de vie personnel. On m'a posé une question personnelle, donc je vais tenter d'y répondre au mieux. Et puis voilà, donc j'espère que votre week-end s'est bien passé. Je sais très bien qu'on rentre dans une période où beaucoup de personnes vont abandonner l'entraînement, vont abandonner les bons réflexes alimentaires. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est la période de Noël, c'est la période où on va avoir une contrainte supplémentaire qui est d'organiser tout ça, de se mettre une pression, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire au nouvel an ? Il faut pas qu'on soit tout seul, il faut vite qu'on se trouve quelqu'un pour passer la soirée, etc. Il y a aussi, comme je disais, aller chercher les cadeaux et tout ça. Donc forcément, ça va meubler un petit peu votre esprit, ça va meubler aussi vos temps libres. Et donc du coup, on va toujours placer l'entraînement et la nutrition en second plan pour beaucoup de personnes qui abandonnent. Donc, je sais que beaucoup de personnes ne vont pas suivre ça, mais pour la majeure partie des gens, et c'est vérifiable quand on regarde autour de nous, les gens vont abandonner, et elles vont un petit peu déserter les salles de sport. Il n'y a qu'à voir la fréquentation des salles au mois de décembre et celle au mois de janvier. Bon, de toute façon, ce sont des choses qui vont être amenées à changer avec le temps, puisque petit à petit, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en train d'ancrer de plus en plus de moments de fête entre guillemets. Donc avant entre on va dire les anniversaires et Noël, il n'y avait pas trop d'événements où on devait faire chauffer la carte bleue. Maintenant, il y a le Black Friday. Donc le Black Friday, c'est quelque chose qui vous amène avant c'était une journée, maintenant c'est une semaine. À lâcher de l'argent. Donc, les personnes intelligentes se servent de ça pour faire les cadeaux de Noël. Comme ça, au moins, ça permet d'avoir un petit peu des réducs. Mais sinon, ben voilà, il y a ça. Et j'oublie, bien sûr, parce que, bon, c'est pas trop mon truc, mais il y a les soldes aussi. Donc, ça fait plein de petits moments comme ça où la carte bleue chauffe, où l'esprit est en mode consommation. Donc, du coup, ça peut un petit peu désorienter et comment dire, changer le point de vue, c'est-à-dire qu'on est plus concentré sur sa propre progression, ses changements, etc., mais bel et bien sur la future acquisition, etc. Donc bon, bref, c'est un constat. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais bon, moi je pense qu'à terme, il y aura plus, on percevra de moins en moins les hausses et les baisses de fréquentation en salle de sport. Ça va être de plus en plus linéaire. Parce que en fait le but ceux qui vous vendent des trucs, en fait, c'est que vous soyez toujours un petit peu sous pression, c'est-à-dire d'attendre le nouveau truc pour acheter en permanence. Donc bon, on peut pas voir les choses différemment que un petit peu de manière pessimiste, mais bon, les optimistes comme moi j'essaye en tout cas de m'extraire un petit peu de ça, et c'est quand même, je pense, important, et c'est là que, quand on parle de méditation, de pleine conscience, de toutes ces choses-là, ça sert aussi à ça, d'essayer de prendre un petit peu, de faire quelques pas en arrière pour revoir un petit peu ses objectifs, parce que c'est vrai que, à chaque fois qu'un événement comme ça arrive, on a forcément du désir, du plaisir, bon voilà, on s'offre quelque chose, puis après ça retombe un petit peu comme un soufflet, et si on répète l'action plusieurs fois, on se crée en fait des attentes, en fait on commence à apprécier ce sentiment de on va dire un petit peu dopaminergique, quoi, où on est un petit peu sous tension dans l'attente de la nouveauté. Et donc du coup, quand on est un petit peu plus paisible et rien de prévu, rien de comme objectif, on va dire, en termes de consommation, on commence un petit peu à pas à déprimer, mais voilà, avoir une humeur un petit peu morose, etc. Donc bon, j'ai fait une longue introduction là de ce podcast, vous m'en excuserez, mais en tout cas, pourquoi pourquoi j'ai ça dans la tête, tout simplement parce que le thème de la formation que je vais faire ce week-end, franchement, je pense qu'elle va aider beaucoup de personnes. Je travaille pas mal dessus pour avoir vraiment une synthèse la plus concise possible, la plus pratique possible justement les gens qui n'arrivent plus à s'y remettre, qui ont adopté un rythme de vie où il y a plus possibilité en fait de s'entraîner, de faire attention à leur bouffe et tout. Et en fait, le but pour moi là, c'est vraiment de décortiquer l'intégralité de leur rythme de vie, de toutes ces choses-là, mais surtout derrière de réussir à trouver pour elle des solutions pour reprendre le bon chemin, de se remettre sur les rails. Donc bon, voilà, elle est quasiment rédigée à 90%. Les 10% restants, c'est la petite cerise sur le gâteau que j'ajoute à chaque formation, c'est le côté pratique, le côté mise en place. Et une fois que ce sera fait, bah de toute façon, elle sera disponible le week-end prochain. Donc, je continue en parlant de formation. Ce week-end est sorti celle sur la progression, donc progresser à l'infini en musculation. Donc, c'est une formation que j'ai sortie, elle est sortie dimanche à 18h. Donc, si vous écoutez le podcast là, à sa sortie, c'est déjà disponible. Vous avez le lien en description. Et on passe à l'épisode du jour qui est sur plusieurs thèmes. Le petit thème d'actualité que j'ai remarqué, industrialisation, supermarché, le bio risque-t-il de perdre son âme? Donc j'ai noté, j'ai dans un article là, la progression des anciennes spécialisées en 2017 et 2018, donc spécialisées c'est quoi? C'est Biocoop, tous ces trucs-là. Donc entre 2017 et 2018, une hausse de plus 7,7%. Est bien moindre que celle de la grande distribution, qui vend du bio aussi, à plus 22,6%, qui a fortement développé ses linéaires et gammes bio en marque de distributeur comme en marque nationale. Après une polémique au printemps sur le chauffage des serres faisant craindre une industrialisation à marche forcée de l'agriculture bio au mépris de ses valeurs, de respect des saisons et de la terre, suivie d'une deuxième polémique à la rentrée, cette fois sur les marges des produits frais, en grande surface, l'agence bio chargée d'accompagner le développement de l'alimentation bio en France a mis les pieds dans le plat. Bon, il y a pas mal de gens. Tout ça, c'est une question de valeur en fait. Les gens n'ont pas les mêmes valeurs avec le bio. Il faut se mettre dans la tête qu'un industriel, quand il voit un nouveau marché, il voit comment il va pouvoir vendre plus que la concurrence, faire du profit finalement avec cette nouvelle tendance, la tendance actuelle qui est au bio. Les valeurs de l'industriel, c'est pas de fournir un produit de meilleure qualité, de prendre soin de votre santé. C'est pas ses valeurs à lui, c'est pas ses objectifs. Lui, ses objectifs, il vous connaît pas. Enfin, même si vous connaissez, de toute façon, ça changerait pas grand chose. Son but, c'est comment ces chiffres peuvent augmenter grâce à l'arrivée du bio. Donc, quand on entend chauffage des serres et tout ça, toutes ces choses-là, en fait, faut bien se rendre compte d'une chose. C'est un petit peu comme un avocat qui chercherait la faille dans le système pour profiter de comment on appelle ça. Bon, j'ai jamais fait de droit de ma vie, mais vous savez, l'avocat qui va chercher la petite faille dans les lois pour pouvoir permettre à l'accusé de s'en sortir tranquille, indemne, etc. Donc c'est un petit peu la même chose là, c'est-à-dire que l'industriel va chercher dans le code, on va dire le règlement bio, ce qu'il peut pas faire, donc du coup il va faire en sorte de rester dans les clous. Mais par contre, toutes les zones un peu sombres, toutes les zones inexplorées, il va en profiter au maximum pour améliorer le rendement, finalement, d'avoir le meilleur rendement au niveau de la production de alimentaire bio. Pour qui dit meilleur rendement va dire les rayons vont être plus pleins. Il va y avoir moins de pertes, Et surtout, il va y avoir, enfin, pas moins de pertes, pas forcément, mais il va y avoir surtout la possibilité de baisser les coûts, parce qu'il y aura moins de rareté au niveau de ces produits. Et donc, du coup, au niveau concurrence, eh ben, il va être bien placé parce qu'il va fournir plus régulièrement à des prix plus bas et ça va être profitable pour son chiffre d'affaires. Donc voilà, là on a vu la première valeur qui est la valeur financière, donc la valeur, les intérêts financiers, la progression, on va dire, de l'entreprise. Et après, d'un autre côté, on a des personnes qui ont des valeurs santé, qui ont des valeurs respect des aliments, etc., pour que ils poussent à telle saison, qui, enfin voilà, tout ce respect-là. Donc du coup, ces personnes-là ne pourront jamais tomber d'accord, puisqu'à la base, les valeurs qu'elles ont ne sont pas les mêmes. Ça n'est pas possible. Une personne qui pense chiffre d'affaires n'est pas la même qu'une personne qui pense santé. Il y a certains, moi je citerai pas de marques, de chaînes de bio, etc. Mais je me souviendrai de, alors c'était en 2000, on est en 2019, donc c'était en 2018, donc hiver 2018, il y a à peu près un an, puisque c'est à peu près en cette période d'ailleurs. Je suis allé chaque année avec un pote qui s'entraîne, qui est à fond nutrition et tout. On va chaque année au salon du bio. On va au salon du bio et on aime bien aller à un endroit où ils vendent des boulangers, vendent des pains un petit peu spéciaux. Alors, il y en a des sans gluten, il y en a avec gluten, il y en a avec des farines un petit peu plus nobles, etc. Et donc, il y en a un où c'est un petit cheat, un petit écart, on va dire, du salon. C'est un pain à base de... Alors, je me rappelle plus le nom de ce pain, mais... je crois qu'il y a des petits morceaux de figues ou d'abricots dedans, enfin c'est avec beaucoup de céréales et tout ça. Donc c'est pas un pain sans gluten, mais c'est un super pain au niveau du goût et tout. Et moi c'est mon petit plaisir en général, je me prends ça, mon ami aussi, et on se prend après du thé en vrac, enfin voilà. On aime bien faire nos petites courses comme ça. Mais pourquoi je viens à parler de ça? Et je viens à parler de ça parce que quand j'ai dit au boulanger qui était sur place, je lui ai dit... est-ce que à d'autres périodes de l'année on peut se procurer vos pains? Il m'a dit oui, pas de problème, je livre telle enseigne et moi en fait je lui donne l'enseigne qui est à côté de chez moi. Et il me dit non. Et je lui dis bah mince, pourquoi? Et ben il me dit on a demandé, mais en fait le patron de cette enseigne est très 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 difficile avec les fournisseurs parce que lui par exemple pour le pain c'est absolument du pain au levain. Donc, il faut que ça soit préparé avec du levain naturel, quoi. Et donc là, je me suis dit, tiens, c'est quand même... Bah, alors, beaucoup auraient dit, putain, il fait chier, à cause de lui, je peux pas en avoir à côté de chez moi. Moi, en fait, ce que j'ai vu, c'est que je me suis dit, ce gars-là est quand même impliqué. En fait, il veut... Il a des valeurs qui ne sont pas que business. Forcément, il a des valeurs business, sinon il aurait pas monté un business, mais il a des valeurs autres, des valeurs supérieures. Et pourtant, il les met pas en avant. Il les met pas en avant parce que c'est grâce à ce boulanger que j'ai rencontré que j'ai compris que cet homme-là, ou cette femme d'ailleurs, mais je crois que c'est un homme, le patron, puisqu'il m'avait dit « il », a des valeurs où il est quand même soucieux de fournir de la qualité. Et donc, du coup, pour revenir à cet article, eh ben, il y aura toujours... plusieurs valeurs différentes en fonction des individus. Et donc le bio, c'est pour ça qu'il y a autant de polémiques dessus, hein, parce que quand des gens sortent un article sur le bio n'est pas si bon que ça, et ben finalement c'est qu'ils se basent, par exemple ils vont prendre des aliments bio complètement industrialisés, donc c'est sûr il y a que des aliments bio, il y a que des ingrédients bio, mais en aucun cas c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver naturellement ou quelque chose qui respecte les saisons et tout ça. Et à partir de là, ça fait quand même un petit peu tâche, on va dire, pour l'image du bio, parce que un expert, sans être expert d'ailleurs, mais quelqu'un un petit peu un journaliste, un petit peu intéressé, va regarder, il va dire oui c'est bio, mais en fait c'est que des sucres à index glycémique élevé, machin. Donc il peut pondre un article vraiment dévastateur pour le marché du bio en se basant uniquement sur une catégorie d'aliments bio industriels. Et à l'inverse, on va avoir des personnes qui vont faire des articles sur les bienfaits d'aliments bruts, donc par exemple de végétaux bruts bio pour les bienfaits, où il y a moins de pesticides, où il y a moins de il y a pas de conservateurs, toutes ces choses-là. Et donc ça va rentrer un petit peu en concurrence. Et quand on va être à la machine à café au bureau, il y en a qui vont dire ouais mais le bio, est-ce que c'est si bio, est-ce que c'est si bon, j'ai vu la dernière fois qu'il y avait beaucoup d'arnaques. Et puis les autres qui vont essayer de défendre un petit peu leur style de vie en disant que depuis qu'ils mangent bio, ben voilà, ils ont peut-être moins de problèmes, bon ça coûte un peu plus cher au portefeuille, donc ils font plus attention, ils mangent moins de viande, etc., etc. Et donc du coup ça crée un peu une cacophonie, et c'est le but hein, de toute façon, c'est de toujours créer, parce que forcément si tout le monde se met à dire que le bio c'est bien, les rayons des supermarchés malheureusement vous avez bien vu, quand vous allez dans un supermarché, le rayon bio c'est quoi, c'est 3% du magasin, même pas quoi. Donc j'en sais rien hein, mais c'est, enfin vous avez bien vu que le bio faut le chercher un petit peu, de plus en plus on le voit, mais faut le chercher un petit peu quand même dans le magasin. Donc voilà le c'est un constat, c'est mon point de vue, et puis c'était un résumé d'article. Deuxième article. Alors j'en parlais avec une personne avec qui j'ai fait un podcast il y a presque un an, je crois. Mais le podcast n'est jamais sorti sur sa chaîne, donc je sais pas, peut-être que ça sortira un jour. Il me parlait. Alors lui, il vit aux États-Unis. Il me parlait de la prochaine tendance qui arrivera en France. c'est une tendance qui est déjà présente. Aux États-Unis, c'est le régime carnivore. Alors, le régime carnivore, qu'est-ce que c'est ? Attention, c'est pas le régime paléo réellement. Le régime carnivore, c'est on bouffe que de la prot animale. Donc, en gros, là, je suis sur un article, ils disent viande, bœuf, poulet, dinde, abat, agneau, porc, etc. Poisson, saumon, maquereau, sardine, crabe, homard, tilapia, hareng, etc. Autres produits d'origine animale, des œufs, du sein doux, moelle osseuse, bouillon d'os, etc. Produits laitiers à faible teneur en lactose et en petite quantité, crème épaisse, fromage à pâte dure, beurre, etc. et de l'eau. Donc, tous ces aliments-là, bon, il y en a beaucoup qui le retrouvent dans le paléo, d'autres dans le cétogène, certains aliments. Et par contre, les aliments interdits, ça va être les fruits et les légumes, les produits laitiers à haute teneur en lactose, les légumineuses, les céréales, les sucres, les fruits à coque, les graines, l'alcool et les boissons autre que l'eau. Alors on a vu que il y a eu les pros régime paléo, puis les pros régime végétarien, puis les pros régime vegan. Maintenant on a les pros régime carnivore. En fait on va faire tour à tour un petit peu tout, chaque classe de nutriments, d'aliments quoi. Bientôt il y aura le régime céréales où on bouffera que du quinoa et du riz et du je sais pas de l'avoine, des choses comme ça, proféculents plutôt. Et en fait, ces régimes-là, à chaque fois, pourquoi ils fonctionnent? Pourquoi ils ont un... Pourquoi il y a un... Je vais vous expliquer rapidement pourquoi ce genre de régime fonctionne et crée un engouement. Quand vous éliminez... Quand, en fait, c'est plus... Je ne vais pas dire des monodiètes, parce que des monodiètes, c'est le même aliment. Mais quand vous éliminez un ou plusieurs nutriments de votre alimentation, admettons, vous avez l'habitude de manger... protéines, végétaux, graisses et glucides à chaque repas. Donc, par exemple, ça pourrait être un morceau de viande blanche avec un demi-avocat, avec une portion de brocoli et puis une petite portion de riz complet. Vous enlevez de votre assiette les légumes et le riz complet. Donc, il vous reste le demi-avocat et votre poulet. Vous mangez ça, et ben qu'est-ce qui va se passer assez rapidement? L'apport calorique est plus bas. Donc dans les premiers jours, qu'est-ce qui va se passer, surtout s'il n'y a pas de glucides? Vous allez avoir une perte de poids rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait vos intestins vont se vider, vous allez éviter la rétention d'eau. En fait, vous allez vous libérer de l'eau puisque vous allez perdre du glycogène. Donc forcément, le glycogène étant stocké avec de l'eau, ben quand il déstocke de l'eau aussi. Donc vous allez pisser votre rétention d'eau. Donc vous allez perdre du poids. Donc il va y avoir ce phénomène-là qu'on pourrait retrouver un peu autrement pour une personne qui mangerait que des glucides, admettons. Elle va cataboliser un petit peu au début, elle va pas perdre son eau aussi rapidement, mais elle va cataboliser. Elle va perdre du poids rapidement, mais elle aura aucune idée si c'est du gras, du muscle. Enfin, après, si on examinait, on verrait bien que c'est en majeure partie du temps du muscle. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois, les personnes, quand elles enlèvent beaucoup de calories comme ça, beaucoup de classes d'aliments, elles vont perdre du poids. Ce régime-là, bon, je le déconseille fortement. Moi, je suis pas pour de faire ce genre de régime. Pour moi, ça ressemble plus ou moins à l'étape 1 du régime du camp, là, vous savez, où il fallait manger que de la prot un peu à volonté. Pour moi, c'est stupide, en fait, de réagir comme ça, parce que ça voudrait dire qu'il y a des solutions, que se priver de classe de certains nutriments serait bénéfique, alors que si on regarde fondamentalement, on a mangé ce qu'on a pu manger, ce qu'on pouvait trouver dans la nature, ce qu'on pouvait, voilà, il y avait pas, s'il y avait des périodes d'abondance de viande, bah, proportionnellement, ça se retrouvait dans notre assiette, enfin dans notre assiette, en tout cas dans notre estomac. Les périodes où il y avait des fruits, bah, c'était des fruits, mais il y a toujours eu des cycles comme ça avec des abondances de certains aliments et d'autres moins. Mais il y avait quand même une variété permanente parce qu'on pouvait pas. Quand on était face à un animal et qu'on avait faim, ben on se disait pas non. Là, ça fait déjà 15 jours que je mange de la viande. Je vais faire attention un petit peu parce que je vais faire attention à mon taux de fer, etc. Bon, bref. Tout ça pour dire que ces régimes-là, pour moi, je vais pas dire qu'ils sont stupides parce que j'aime pas critiquer comme ça gratuitement, mais ils sont pas cohérents en tout cas. Mais je vais vous expliquer rapidement pourquoi ce genre de régime crée finalement une tendance et un mouvement. Parce que comme je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a des régimes comme ça qui sont très restrictifs sur des catégories de nutriments, en règle générale, il y a une perte de poids assez rapide. Et attention, quand je dis perte de poids, notez bien la différence entre perte de poids et perte de gras. Nous, ce qu'on recherche dans la muscu, dans le fitness, dans tout ça, dans être plus en forme, c'est de perdre du gras. Donc ça veut dire mincir. C'est pas maigrir. Alors je sais pas s'il y a une différence entre les deux, mais pour moi maigrir, c'est quand on diminue ses mensurations, et mincir, pour moi, c'est plus quand on s'assèche un petit peu, quoi, on perd du gras. Bon, ça se trouve, ça veut rien dire ce que je dis, mais bon, bref, vous comprenez la différence. Donc tous ces régimes là font maigrir, et donc ils permettent de perdre de la circonférence de quasiment partout, et donc du coup beaucoup de personnes, on le sait, ne suivent pas un régime à long terme, donc du coup perdent du poids rapidement, et même si elles reprennent derrière, elles gardent en tête que ce régime-là leur a permis de perdre 2-3 kilos. Il était difficile, mais ça a marché. Donc elles pensent avoir la recette, mais elles n'arrivent pas à le tenir. Et finalement, elles peuvent véhiculer une image positive de ce genre de régime auprès de leurs amis, parce que elles pensent avoir trouvé la méthode miracle qui permet de perdre très vite. Et voilà, que c'était si simple et qu'on le fait pas. Et tiens, pourquoi toi tu continues pas? Bah parce que tu sais, c'est compliqué, j'ai des enfants, j'ai des machins, j'ai des trucs, des bidules, des choses, des excuses, etc. Mais bon, dans leur tête, ils ont l'impression d'avoir compris comment on perdait du poids, et cette perte de poids est devenue impossible pour ces personnes parce qu'elles ont quand même du mal, elles ont pas envie de se dire « mais toute ma vie, j'ai pas envie de manger que du saumon, du bœuf, du poulet et des œufs ». C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. On le sait, les gens ne tiennent pas la longueur quand il est question de régime. Et de toute façon, les régimes, il y en a qui me disent « tu dois avoir du mental, Théo, pour tenir comme ça ta diète sur des années, parce que ça fait quand même des années que je suis présent et que je tiens finalement une alimentation comme ça. » Mais j'ai aucun mérite, sachez-le. Le mérite, je l'avais les deux premières années peut-être. Pourquoi ? Parce que j'ai modifié mes habitudes alimentaires. Mais une fois que c'est devenu des nouvelles habitudes alimentaires, c'est aussi facile que pour vous. C'est-à-dire que moi, quand je fais ma liste de courses, quand je vais faire mes courses et tout, pour moi, c'est un automate. Il n'y a pas d'effort à faire. Mon frigo est rempli de choses qui me conviennent et à la fois gustativement et, on va dire entre guillemets, physiologiquement ou biologiquement. Et donc, du coup, grâce à mon rythme de vie et à mes automatismes, je ne prends pas de poids. Donc, du coup, enfin, je prends pas de gras, je nourris mes muscles, etc. Mais bon, je vais répondre rapidement. Ça fait combien de temps que je parle? Je suis un peu perdu parce que là, avec le nouveau logiciel d'enregistrement, j'ai plus la durée, là. Donc, bref. Je vais répondre rapidement à une question qu'on m'a posée dans un commentaire YouTube qui est ici. Donc, la question. Alors, déjà, c'est assez rare de voir des personnes qui mettent leur nom, prénom. Alors, c'est Hugo Rodrigue qui me dit « Merci Théo, ça fait des années que je te suis et c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Merci à toi. Merci pour ta petite recette, mais ma question est la suivante. Ton repas du midi se résume-t-il à cette assiette ?» Donc, la recette que j'ai mise, c'était du poulet, haricots verts, à l'ail et l'huile d'olive. Tu n'as pas une entrée avant ou un dessert après. Et si cela se résume à ça, est-ce que tu tiens jusqu'au repas du soir ou as-tu, avec ce genre de repas, une collation moins de 3 heures après? Te regardant depuis longtemps, je connais plus ou moins la réponse, mais plus largement pour ceux qui te découvrent, il serait intéressant, en fin de vidéo, d'aborder ce sujet pour positionner cette assiette dans la globalité du repas ou de la journée avec quelques exemples. par exemple des idées safe de dessert pour conclure ce repas. Car je le vois avec ma femme et les enfants, nous arrivons à sortir de l'industriel pour réaliser un plat principal, une assiette simple cuisinée saine, mais la difficulté est de gérer l'avant et l'après, c'est-à-dire l'entrée ou le dessert, ou le grignotage après le soir dans le canapé. Et je pense que c'est le cas de beaucoup. Merci à toi et continue comme tu es. Donc merci énormément Hugo, parce que déjà d'une, tu poses une question publique en commentaire, donc je trouve que c'est courageux, sous ton nom et ton prénom, mais surtout tu as l'empathie de te dire que tu connais déjà plus ou moins ma réponse, mais que tu penses que ma réponse pourra en aider d'autres, donc tu penses aux autres. Alors, évidemment, je vais commencer à répondre à ta question. Oui, moi je n'ai que cette assiette-là. Donc, quand j'ai un petit déjeuner, j'ai une assiette. En fait, moi j'ai toujours une assiette, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de dessert. Je mange ça et j'ai mis du temps à arriver finalement à la diète que j'ai aujourd'hui, mais beaucoup de personnes me parlent de tu manges que ça, etc. Mais quand on parle en termes de valeur calorique, quand on ajoute les graisses, quand on ajoute tous les ingrédients qu'il y a dans une assiette, on se rend compte que parfois je suis à 700 calories mais sans glucides pour une assiette. Donc grossièrement, des gens parfois avec des glucides sont à 500 calories sur une assiette. Donc déjà c'est la première chose, le que ça. Il faut bien faire une différence entre le que ça visuellement et le que ça caloriquement. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais la valeur énergétique, la densité énergétique de mon repas est quand même assez intéressant, parce que surtout que ce sont des aliments bruts. C'est pas des calories vides, si on pourrait dire les choses comme ça. Calories vides, ça veut rien dire, mais calories vides veut dire que t'apportes une calorie qui potentiellement va te faire grossir, va t'apporter ou du sucre ou du gras de mauvaise qualité ou des acides aminés ou autres, mais que ton corps sait pas en faire grand chose d'autre que du gras ou c'est tout en fait. Donc du coup, pour te répondre, oui, je ne mange que ça. Toi, le premier pas que tu as fait, toi et ta petite famille, de passer au-delà de l'alimentation industrielle, c'est très bien. Après, au niveau des entrées et des desserts, l'entrée, il suffit juste... Parce qu'en fait, l'alimentation, c'est très visuel. C'est-à-dire que si je te mets une assiette avec des haricots verts, du poulet et une petite salade de tomates dans le coin de mon assiette... Ça va pas être pareil pour toi que faire un saladier de tomates, oignons, salade avec un peu d'huile d'olive et de vinaigre balsamique, donc tu as ton entrée, et après manger tes haricots et ton poulet. Visuellement et dans le rythme de ton repas, ça va pas être la même chose, parce que tu auras l'impression d'avoir eu ton entrée, ton plat, il te manquera ton dessert peut-être, mais tu auras cette impression-là. Moi, je fais en sorte que mon repas tienne dans mon assiette. Côté pratique... Je suis habitué comme ça depuis des années. Moi, ça m'ennuie un petit peu d'avoir l'entrée, puis j'attends, puis passer au plat, etc. Je mange comme ça et ça me convient très très bien. Au niveau du dessert, on va résumer les choses. On va prendre les choses à l'envers. Qu'est-ce qu'un dessert ? Un yaourt, du fromage, un gâteau, un fruit. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Bon, c'est à peu près tout. Quelle est la catégorie d'aliments qu'on peut consommer dans ce que je viens de dire ? Bon, les yaourts, produits laitiers, on évite. Enfin, c'est pas forcément compatible avec la nutrition, on va dire muscu. On va rajouter des protéines. Ça va être un petit peu. Si on a eu sa dose de protéines sur le plat principal, ça sert un peu à rien. Puis le yaourt, c'est pas très protéiné. On aurait possiblement le fromage blanc. Donc une personne qui a pas trop de protéines sur son repas, pourquoi pas un peu de fromage blanc ? Ça peut se gérer. Mais après, on y met quoi dans le fromage blanc ? Parce que le fromage blanc comme ça, c'est un peu fade. Donc il y a des personnes qui vont y mettre du miel, donc ça va rajouter du sucre. D'autres qui vont mettre des fruits, donc ça va rajouter du sucre aussi. Bon, il y a là une petite technique que je vous donne ici. Pour ceux qui en consomment, vous pouvez mettre un peu de cannelle, ce qui va alléger un petit peu la glycémie, c'est-à-dire que ça va un petit peu aider à une glycémie stable post-repas. Enfin, stable, c'est impossible d'avoir une glycémie stable post-repas, mais on va dire que ça va aider à maintenir quelque chose d'un peu plus cohérent, même si c'est infime. Et voilà. Après, le fromage, après un repas, moi, je suis pas forcément fan. Pourquoi pas un petit morceau de fromage au petit-déj, pas tout le temps, de temps en temps. Bon, ok. Moi, je suis dans les produits laitiers, à part le fromage, je consomme rien, je vous le dis honnêtement. Je trouve pas que le fromage soit quelque chose de super intéressant au niveau santé, etc. C'est hyper acidifiant et c'est surtout hyper salé. Bref, on peut s'en faire un petit peu pour se faire plaisir de temps en temps. Donc on évite le fromage, on évite les yaourts, les desserts sucrés, j'en parle pas. Et le fruit après un repas, quand tu manges un fruit, en général, ça se passe un peu mal. Hein. Pour certaines personnes, au niveau de l'estomac, ça ballonne un peu, c'est pas super agréable. Et puis si on a encore faim pour un fruit, autant manger plus de légumes. Donc en fait, ce qu'il faut faire, on n'est pas obligé de manger un dessert. En fait, le dessert est très, c'est des habitudes de vie, mais on n'est pas obligé de le consommer. Les enfants, c'est autre chose. Les enfants, ils ont besoin de se développer. S'ils ont encore faim, parce qu'il faut voir ce qu'ils réclament comme dessert, les enfants. S'ils disent « Papa, maman, je peux me lever de table et aller chercher mon dessert » et qu'il ouvre le frigo et que dans le frigo, il y a des danettes, il y a, je sais pas, tout un tas de conneries comme ça, bien sucrées, faites l'essai de ne pas acheter tout ça et de mettre dans votre frigo, je sais pas moi, des fruits, des petits fruits, des framboises, des myrtilles, peut-être même des noix, des choses comme ça. Et puis, quand il se lève... et qui veut, même, vous pouvez mettre, par exemple, un fromage blanc nature. Quand il se lève pour aller chercher son dessert, eh ben voilà, il est face à ça, et vous allez voir si vraiment c'est la faim ou si c'est la gourmandise. Je suis pas là pour dire que les enfants, il faut pas leur donner de trucs sucrés et tout ça, ça me regarde pas, c'est pas ma responsabilité d'éduquer les enfants des Français. Moi, je peux vous donner juste mon retour d'expérience par rapport à quand j'étais petit. Il n'y avait jamais de danettes et de trucs comme ça dans le frigo. Et le dessert, c'était un morceau de fromage ou un produit laitier de type un yaourt nature. Voilà. Et en règle générale, j'en prenais pas. Parce que je préférais me resservir sur les plats principaux, on va dire, le plat principal, donc viande, féculents et légumes, que manger des desserts. Mais bon, je peux comprendre. Voilà, c'est comme le petit goûter à 16 heures pour les enfants. C'est assez compliqué. C'est pas mon combat. Je pense que ça, c'est le combat des parents, d'essayer de se renseigner là-dessus et de faire le boulot. Mais moi, je parle plutôt des adultes. Les adultes ne sont plus des enfants. Et il faut voir une chose, c'est que à partir du moment où le dessert est aussi sain que le plat du jour, vous allez voir que vous en aurez beaucoup moins envie parce que il n'y a pas cette attirance. Après, je vais répondre rapidement à ta dernière petite question, le grignotage après le soir dans le canapé. Alors moi, je pars du principe que à peu près 3 carrés de chocolat noir par jour, ça passe. Donc, comment on peut répartir ça? Eh ben, on peut en prendre un au midi, et puis 2 le soir, par exemple, devant la télé, on se fait fondre un bon carré de chocolat noir à 90% ou 95%. On se le fait fondre sur la langue, là, un peu amer comme ça, c'est super bon. Enfin, moi, j'adore. Ça va pas détruire votre physique. C'est plutôt intéressant. C'est assez riche en polyphénol. Prenez le bio pour le coup, essayez de le prendre supérieur à 70-75% de préférence. Allez-y progressivement si vous aimez pas quand c'est trop amer. Mais voilà, ça suffit. C'est votre petit plaisir à vous. Alors pas le chocolat au lait et tout ça, mais voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais pas vous dire rien. Vous prenez rien, vous terminez votre salade et vous vous foutez devant le canapé avec devant la télé avec votre tisane et vous combattez la faim. Normalement, comme je vous dis, si vous avez très faim le soir, c'est très fréquent que vous ayez eu un petit déjeuner trop peu copieux, un repas du midi sur le pouce, et du coup, les calories, enfin l'énergie, la vitalité qui vous manque, votre organisme cherche à le puiser, vous le demande finalement, et vous le demande au moment où vous êtes peinard, et les moments où vous êtes peinard, c'est le soir. Donc, il faut un petit peu revoir ça. Moi, personnellement, comme je vous disais, j'ai un très gros petit déjeuner, très gros. Je peux pas dire très gros, mais en termes de densité nutritionnelle, il est assez riche. C'est-à-dire que visuellement dans l'assiette, il est assez pauvre, mais la densité... La dernière fois, j'ai publié, j'avais 3 tranches de pain de sarrasin pré-tranché là que je vais chercher à mon magasin bio. Alors pas pré-tranché, c'est moi qui demande à la boulangère de me le couper. Donc j'ai 3 tranches comme ça, assez épaisses, donc c'est assez dense quand même. Après, j'ai 2 ou 3 œufs entiers. J'ai parfois un morceau de comté. Donc un bon petit morceau de comté, je vais avoir une salade d'endives avec des graines de lin, de l'huile d'olive et du vinaigre. Bon, et avec ça un demi-avocat. Donc au niveau de la densité énergétique et calorique de mon repas, Je vous laisse imaginer quand même qu'au niveau des graisses, par exemple, je suis quand même pas mal. Donc, il y en a qui vont me dire, mais tu manges que ça, parce qu'eux, ils ont l'habitude de se faire des pancakes avec du beurre de cacahuète, machin, et des fruits et tout. C'est pas la même nature d'aliments que je vais consommer moi, mais au niveau densité énergétique, je peux vous garantir que c'est le genre de repas qui me tient jusqu'au midi largement. Et pareil pour le repas du midi, la densité calorique, la densité énergétique est peut-être visuellement faible quand on regarde comme ça, mais réellement, mon corps s'en sort très bien. Et comme je vous dis, je m'entraîne aussi dans l'après-midi. Forcément, je prends une collation après l'entraînement. Donc, j'en prends pas avant, par contre. Ça, c'est important. Je mange le midi et je m'entraîne. Alors, parfois, des fois, en ce moment, je m'entraîne le matin. Mais quand je m'entraîne l'après-midi, j'ai rien dans le ventre quand je m'entraîne. Le dernier repas, c'est le repas du midi et je fais pas d'hypoglycémie ni rien. Donc, c'est... Alors, forcément, moi, j'ai la chance de ne pas regarder les conneries sur YouTube. Donc je me laisse pas influencer, et puis il en faudrait quand même, il faudrait s'accrocher pour m'influencer, parce que même des personnes que j'admirais un petit peu quand j'ai démarré, je me mets à me rendre compte qu'il y a beaucoup de bullshit dans leur discours. Mais bon, bref, comme je vous disais, j'ai la chance de pas être influencé. Donc du coup, si vous voulez, moi je sais me regarder dans le miroir et de me dire, ok, attends, quand quelqu'un affirme un truc, c'est très bien. Regarde le chemin que toi t'as fait jusqu'à aujourd'hui, le physique que t'as réussi à avoir. Bon, t'es pas le meilleur, loin de là, mais bon, t'as quand même fait tes preuves. Donc, je me le dis honnêtement, j'ai fait mes preuves et j'ai cessé de me remettre en question. Au bout d'un moment, quand vous avez trouvé quelque chose qui vous convient, quelque chose qui a aidé des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes, ben voilà, il y a plus à se remettre en question, quoi. On peut, au lieu de se remettre en question, travailler sur ce qu'on sait déjà, essayer de progresser encore, mais arrêter de faire le yo-yo entre des croyances et des autres. Et forcément, quand on suit en permanence des personnes sur Internet, il faut savoir une chose, c'est qu'elles ont toujours un discours différent. Elles ont, comme je disais tout à l'heure avec l'histoire du bio, c'est une question de valeurs. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Il y a des personnes qui vont être pro diète hyper structurée avec des repas tout le temps, d'autres qui vont être pro jeûne intermittent, et d'autres comme moi. Alors moi, je suis pro rien du tout. Moi, je suis pro style de vie, c'est-à-dire que moi, j'aide les gens à avoir une diète qui colle à leur style de vie pour qu'elle puisse tenir sur la durée. Donc forcément, je peux pas vous dire c'est telle diète. Non, il faut que je vous connaisse un petit peu, ou alors qu'on discute, ou qu'à l'aide des formations, par exemple, j'apprends à vous personnaliser un petit peu, à savoir comment personnaliser les informations que vous recevez pour que vous puissiez les appliquer. Moi, c'est comme ça que j'aime travailler. C'est, on a un individu X qui a un style de vie Y, et donc du coup, en additionnant ces deux choses-là, on va avoir un résultat au niveau nutritionnel et au niveau entraînement. Je peux pas dire à une personne... toi, tu vas t'entraîner à 17h tous les jours du lourd, et tu vas manger à 8h, 10h, midi, 15h, après l'entraînement et à 20h maximum. Parce que là, en fait, en lui disant tout ça, je lui ai ajouté peut-être que des contraintes, parce que je connais pas son job. Donc, est-ce qu'elle est en 3-8? Est-ce qu'elle travaille de nuit? Est-ce qu'elle travaille de jour? Est-ce qu'elle est chômeuse? Est-ce qu'elle est... Comment? On sait pas. Pareil, lui imposer un entraînement l'après-midi, ouais, mais si l'après-midi elle bosse, ou si l'après-midi elle doit s'occuper de ses gosses ou quoi, comment on fait? Ben voilà, il y a toutes ces choses là. Donc forcément, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à suivre une diète parce qu'elles ont comme croyance qu'il y a qu'une seule façon de le faire et ça ne colle pas avec leur style de vie. Et moi, je suis contre ça. Je suis contre ça pour plusieurs raisons. C'est que un, j'ai eu beaucoup de styles de vie différents. Déjà à mon jeune âge, j'ai 32 ans, j'ai eu pas mal de styles de vie différents. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé deux matins, donc j'ai travaillé le matin très tôt jusqu'en début d'après-midi, j'ai travaillé l'après-midi jusqu'à tard le soir, j'ai travaillé deux nuits, j'ai été à mon compte, j'ai été salarié, j'ai même été chômeur pendant 6 mois de ma vie. Donc ouais, que 6 mois, je vais savoir, 32 ans, 6 mois de chômage, ça va, c'est pas mal. Et 6 mois, c'était à, j'avais 18 ans, hein. Enfin non, j'avais pas 18 ans, j'avais 19, puisqu'il avait fallu que je cotise, j'avais au moins 19 ans. Donc bref, j'ai quand même eu des expériences de vie différentes au niveau des jobs. Je suis pas rentré dans un job à 18 ans, sorti des études que je n'ai pas faites d'ailleurs, et je le tiendrai jusqu'à aujourd'hui. Non, j'ai eu pas mal de travail. différents, déménageurs, carrossiers, mécaniques poids lourds, préparateurs de commandes, sécurité incendie pendant une période. J'ai fait tout un tas de jobs et j'en oublie. J'ai même travaillé dans un magasin de fournitures de chantier, tout ça. Vous savez, les parpaings, toutes ces choses, le ciment, le sable et tout. Donc, j'ai eu pas mal de jobs différents. Donc, je sais un petit peu que on peut avoir des styles de vie différents et donc, potentiellement, il faut s'adapter. Et je pense que la chance que j'ai eue, moi, personnellement, c'est que j'ai une capacité personnellement, j'ai beaucoup de défauts, j'ai énormément de défauts, je vous le dis honnêtement, mes proches le savent, j'ai beaucoup de défauts, mais il y a une chose où je suis droit dans mes bottes, où je suis compétent, c'est la nutrition, c'est l'entraînement, c'est le style de vie pour être en forme. Et donc, en permanence, quand je rencontrais une problématique, quand je rencontrais un obstacle, je cherchais une solution pour soit le contourner, soit m'en servir pour perfectionner quelque chose dans mon style de vie. Et je peux vous garantir encore une fois, je le répète, que j'ai beaucoup de défauts, mais que sur le sujet de la nutrition, de la perte de poids, de la prise de masse musculaire, etc., je connais mon domaine. Donc, voilà, c'est important de le préciser. Et pourquoi je le précise ? Parce que, ben voilà, on pourrait se demander, il y a des gens qui m'écoutent, ils savent pas qui je suis réellement, ils m'écoutent un petit peu comme ça la semaine, parce que ça les divertit, ça leur apprend un petit peu. Mais sachez une chose, c'est que le moteur de tout ça, c'est une forme de passion et d'intérêt mélangé qui ont fait de mon quotidien quelque chose que je maîtrise dans ces domaines-là. Et c'est pour ça que je précise, encore une fois, que j'ai plein de défauts et tout, parce que je me mets pas du tout dans la catégorie des influenceurs qui... l'influenceur, vous savez, c'est cette... c'est cet animal qui a une vie merveilleuse, qui respire le bonheur, qui a une réussite professionnelle, sentimentale, amicale, sportive, nutritionnelle, à tous les points de vue, qui est au top. C'est une personne qui ne connaît pas de creux de vague, et quand il connaît des creux de vague, c'est des creux de vague corrects, vous savez, des creux de vague qui les font passer un petit peu pour des héros, etc. Et moi, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Moi, je me reconnais dans les gens du quotidien qui se réveillent le matin, parfois, qui ont la tête à l'envers, qui n'ont pas envie de passer la journée, et ben, par des efforts, vont faire en sorte que la journée se passe et de se convaincre que le lendemain sera beaucoup mieux. Et puis, effectivement, c'est le cas régulièrement. Le lendemain est mieux, mais il y a des jours où c'est des creux de vague, et quand c'est des creux de vague, et ben, il faut savoir avoir les bonnes armes pour surmonter cette journée-là. Donc il faut avoir des bons réflexes alimentaires, il faut avoir des bons réflexes au niveau de la prise de recul pour réussir à faire ses entraînements, pour réussir à respirer un petit peu, pour dédramatiser certaines situations. Personne n'est parfait, et je vous garantis que chercher la perfection et se réveiller tous les matins avec vraiment une simplicité à accomplir toutes les tâches de la journée, c'est impossible, improbable. Et puis même, ça enlève toute la sève, en fait, des moments de plaisir. Parce que si tous les matins, c'est Noël, ben, au bout d'un moment, on se satisfait de ça. Et ça revient à ce que je disais au tout début, avec les histoires de multiplication des événements, comme les soldes, les Black Friday, les promos, les machins. C'est qu'on enlève la sève du bonheur des petits moments rares. Et les moments rares comme ça, en fait, faut que ça soit des courbes, faut qu'il y ait des moments où on est vraiment en extase et des moments où c'est un petit peu plat. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'apprécier justement les moments d'extase. Et quand on voit les choses sous cet angle-là, eh ben forcément, déjà quand on l'accepte, ça nous permet après de se dire, écoute, il y a des moments où ça va, des moments où ça va moins, des moments où c'est le top. Eh ben, moi, j'ai pas envie de m'entraîner que quand c'est le top, donc comment je fais ? Et là, on trouve des solutions. On trouve des solutions, et moi, ça a été mon travail tout le temps, depuis toujours, parce que je vous ai jamais vendu du rêve à ce niveau-là. Je pense que je suis assez droit dans mes bottes de ce côté-là. Je vous ai jamais vendu du rêve en vous disant que j'avais la solution à tous vos problèmes. Non, moi, j'essaye de trouver des outils pour vivre avec son propre style de vie. Et donc voilà, je m'arrête ici. On aura beaucoup parlé de moi, comme je vous l'avais dit en début de podcast, parce que au début du podcast, j'ai dit qu'il y avait une question vie privée. Ben, je pense que j'ai un petit peu abordé la vie privée là. Et puis je vous laisse ici. Sachez une chose, c'est que la formation sur j'arrive pas à trouver mon rythme de vie, à trouver mon rythme de vie sportif, fitness, perte de poids, prise de muscle, etc. à cause de tout un tas de choses. C'est le terme de la formation qui va arriver dimanche prochain. Et pour ceux qui ont raté la formation de dimanche dernier à 18h, c'était une formation sur la progression en musculation. Alors que vous soyez débutant ou confirmé, que ça soit un entraînement à la maison ou en salle de sport, les réponses y sont. Je vous mets le lien également en description. Donc, merci pour ta question. Alors, merci pour ta question, Hugo Rodrigue, ou Rodriguez, je ne sais pas comment on peut dire. Je pense qu'elle a été traitée en long, en large et en travers. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à partager ce podcast avec un ami qui en aurait besoin ou un membre de votre famille à qui vous n'arrivez pas à expliquer les choses comme vous le voyez, mais les mots ne sortent pas comme moi, vous n'arrivez pas à le convaincre. Et puis, de toute façon, on sait très bien que quand c'est un proche qui nous le dit, on a du mal à ne pas le contredire. Partagez-le, voilà. Mais partagez-le avec des gens à qui ça sert, pas avec des gens à qui ça ne servira pas. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut.